puis Jean-Luc Bardi, je suis membre de l'équipe pression depuis 1986. J'ai participé à beaucoup des recherches qui ont eu lieu ici. Enfin même j'en ai pris en charge quelques-unes. Il y a eu un gros travail sur les ambiances sonores des ports et des gares. Donc les ports c'était en 92, les gares c'était en 99. Donc ça m'a fait beaucoup travailler sur la prise de son, entre autres. Avec mon bagage, j'ai une formation plutôt de type sciences humaines sociologiques, mais aussi une culture de technique à laquelle je ne renonce pas. Et par ailleurs, je suis ingénieur du son, parfois scénographe, dans le monde du théâtre, du cinéma. Alors en fait, mon intervention elle sera un peu technique, elle sera aussi basée sur des conseils, un peu d'expérience, des retours d'expérience. Et en sachant que beaucoup d'entre vous travaillaient déjà la matière sonore, faisaient des montages, vous êtes déjà des personnes. La moitié des gens qui sont ici, je crois, ont déjà des compétences par rapport à l'audio, des grandes compétences. C'est le cas. Qui travaille l'audio ici déjà? D'accord. Et des gens qui font du montage, qui font des documents, le monde radiophonique, le monde de la création radiophonique, des choses comme ça. D'accord. Dans ma région, ça se passe où en général? Sur Grenoble? Pardon?
Marseille.
D'accord. Bon. Je vais vous parler un petit peu, ça sera un rappel pour beaucoup, mais pour les autres, peut-être que ça sera intéressant d'avoir peut-être des éléments de découverte. Donc rapidement, la chaîne d'enregistrement et de la production audio numérique, avec encore, c'est un peu tard, mais il faut encore parler un petit peu de l'analogique, surtout pour les gens qui travaillent sur les archives ici, et qui utilisent comme lecteur maintenant les appareils à côté des enregistreurs. On ne peut pas s'en passer de ces machines, et il faut qu'elles soient dans des états, il faut les choisir ces machines le plus possible, sinon on va faire une mauvaise numérisation. Après, j'aimerais bien vous parler un petit peu des fantasmes en fait, qui ont été réglés depuis que le numérique existe, et depuis qu'il y a eu un énorme développement des plugins. Qui maintenant laisse envisager des choses, peuvent faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, des choses un peu incroyables, comme dissocier, comme on ne pouvait pas le faire à l'époque des bandes magnétiques, la vitesse du son et la hauteur du son. Maintenant, ce sont des paramètres qui sont distinctibles. Et puis, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui va nous concerner là, pour notre travail patrimonial. J'aurais parlé de la réponse impulsionnelle, qui est une méthode pour rendre compte d'un espace donné, historique ou pas, d'une salle banale ou spectaculaire, une salle de spectacle par exemple, une église, une forêt. On peut en rendre compte à travers un petit son qui correspond en fait à ce qu'on enregistre si on claque dans ses mains ou on claque de bâton ou si... On tire un coup de fusil. C'est un peu difficile d'obtenir en fait ces résultats-là parce que les moyens d'obtenir ils sont un peu bruyants et tout ça. Donc maintenant, ce qu'on fait, on génère un sweep, c'est-à-dire un balayage fréquentiel du très grave à l'inaudible dans l'aigu. Et du coup, puisque un son transitoire, c'est un son qui contient toutes les fréquences, ben on empile en quelque sorte les résultats, les mesures qui ont été faites. On enregistre ce sweep dans l'espace qu'on veut analyser. On recompose ensuite un son transitoire, et ce son transitoire, on peut l'injecter dans une réverbération spéciale qui s'appelle une réverbération à convolution. Et du coup, après, on a les éléments pour, dans un montage... à vocation artistique, ou bien dans le cinéma, quand on est obligé de faire de la post-production, par exemple, on n'est plus dans les locaux, on a fait le tournage, et on est obligé de travailler avec les speakers en studio, et bien on va pouvoir les replacer, on va dire sans effet, ça va vraiment bien coller avec les enregistrements qui ont été faits in situ. Vous connaissez, il y a des personnes qui connaissent la réverbération à convolution? Vous l'avez utilisée? D'accord. Donc ça reste quand même un petit peu rare d'utiliser ça. Hein, bah,
c'est-à-dire qu'à tout moment, ça tendance à se
D'accord.
Ça m'utilise très bien d'utiliser les rendements aussi.
Donc, c'est vraiment, le résultat est vraiment différent d'une réverbération numérique classique.
Quoi. Vraiment la réalité de la chose,
D'accord.
Alors, le mot âme, il est un peu polémique, c'est pas l'esprit, l'essence, enfin ce que vous voulez, les caractéristiques d'acoustique architecturale. Mais voilà, on en parlera un peu plus loin. Donc là, je voulais vous rappeler, bon, on a déjà dû vous faire des discours là-dessus, les grandes différences entre l'enregistrement analogique et l'enregistrement numérique. Donc à l'époque de l'analogique, la vitesse d'enregistrement, reproduction, jouait sur la bande passante et la dynamique du son enregistré. On avait des bandes passantes, donc des écarts, hein, on est bien d'accord, entre les sons graves et les sons aigus, des écarts qui étaient... en défaveur des aigus, en tout cas on ne montait pas très haut dans les fréquences aiguës, du coup beaucoup d'harmoniques manquaient dans les enregistrements qu'on faisait. Alors sur la voix c'est pas critique, sur la musique c'était critique. Sur le paysage sonore aussi, il y a des composantes qui montent très très haut dans l'ultrason. C'est mesurable, c'est enregistrable, mais ce n'est pas audible. À l'époque en tout cas on ne pouvait pas enregistrer ces fréquences très très élevées. Au niveau dynamique, ben, tout le matériel de l'époque est extrêmement à base dynamique, même si on sait qu'on a une dynamique d'écoute dans la ville d'aujourd'hui qui n'est pas très élevée. On a un seuil d'audibilité, de confort. Le silence en ville, chez soi, c'est 40 décibels, quelque chose comme ça. La douleur, elle est un peu au-dessus de 100 décibels, mais en fait, on a à peu près 60 décibels de dynamique. C'est d'ailleurs la dynamique d'un orchestre symphonique. On a des nuances d'à peu près 60 décibels. Donc c'est vrai, on peut se demander est-ce que c'est la peine d'avoir une dynamique énorme. Avec le numérique, on verra plus loin, on peut aller dans des dynamiques insupportables. La qualité du support avait une grande importance à l'époque. Je ne sais pas si vous avez eu entre les mains des bandes magnétiques. Il y avait des bandes bon marché et des bandes chères. Les bon marché, elles se cassaient quasiment tout de suite. Les chères durent 40 ans ou 50 ans après. On peut encore les récupérer des aigus sur ces bandes-là. Les bandes pouvaient être plus ou moins larges. Également, les têtes de lecture, quand on avait un appareil 4 pistes, par exemple, ou 8 pistes, ou 16 pistes, on avait des têtes de lecture extrêmement hautes, donc des bandes qui passaient devant extrêmement hautes également. À l'époque, donc aussi, la qualité du support et le stockage de ce support étaient critiques. Ça n'a pas forcément changé pour le numérique, mais à l'époque, la température, par exemple, hein, ou l'humidité, l'hygrométrie, ces paramètres-là jouaient. Le matériel aussi était très critique, la qualité électronique et mécanique de l'enregistreur-lecteur. Il fallait des appareils souvent lourds, comportant des pièces avec effet de volant, avec des effets d'inertie, pour avoir des stabilités d'enregistrement nécessaires, pour avoir peu de... distorsion de son. Chaque fois qu'on voulait faire un clone, qu'on voulait transférer le document ou faire un mixage, rajouter un son, faire du multipiste à l'époque, chaque opération générait du souffle. Et on n'avait pas d'outils, on les a eu dans les années 80, on commençait à pouvoir réduire le bruit avec des appareils qui étaient déjà numériques. Et puis, ces enregistrements donnaient un son particulier. On parlait de chaleur. Alors ceux qui étaient favorables parlaient de la chaleur du son analogique, comme on le dit encore. Pour d'autres, c'est de la coloration du son. C'est en fait un défaut, les défauts techniques de l'électronique à lampe puis à transistor qui donnaient ce son particulier. En tout cas, là, je voulais vous dire, Poignet, que le choix des lecteurs qu'on utilise pour numériser aujourd'hui les documents sonores anciens, ce choix est capital. Alors, il faudrait idéalement retrouver la machine qui a servi à enregistrer déjà pour être sûr de restituer à peu près tous les sons qui sont enregistrés. Et sinon, bon, il y a des tas de réglages qu'il faudrait faire à chaque opération de copie en fonction d'un lot de bandes qu'on reçoit. Alors l'enregistrement numérique, c'est différent puisque on ne va pas refaire un cours sur le son, le découpage, la loi de Nyquist, tout ça, mais il y a un lien entre la fréquence d'échantillonnage et la bande passante. Quand vous avez un document numérique, il y a toujours deux caractéristiques à surveiller attentivement, c'est le nombre de bits, en fait, c'est-à-dire le nombre de lettres contenues dans chaque tranche de votre son. et la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de tranches que vous avez par seconde. Donc plus il y a de lettres dans votre tranche numérique et plus vous avez de tranches numériques par seconde, bien sûr, le son sera bien mieux défini. Alors l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage va donner une bande passante qui est la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Si vous avez, par exemple, 44 100 Hz, c'est le cas de la fréquence d'échantillonnage des compacts disques, ben, vous avez une bande passante. On va prendre une marge, c'est la moitié, un peu moins que la moitié, c'est 20 000 Hz. On est à peu près à 20 000 Hz. C'est-à-dire que c'est bien la bande passante audible, mais on sait qu'il y a des harmoniques qui sont au-dessus de 20 000 Hz. Et là, ils ne sont pas captés, ils ne sont pas enregistrés. Donc, on a amélioré cet échantillonnage. Il est passé après, avec le DAT, à 48 000. Donc, on a à peu près 22 000 Hz utiles dans les aigus, ce qui est là, bien, bien au-dessus de l'écoute, des capacités de l'oreille humaine. Mais... on peut faire mieux, et maintenant on est à des fréquences d'échantillonnage qui sont autour de 192 kHz, c'est-à-dire on a quasiment 100 000 Hz de dynamique, de performance dans les aigus. Et ça continue, je crois qu'on va encore au delà. Juste vous faire écouter ce que fait justement. Le changement de fréquence d'échantillonnage et le changement de bit. Ça, c'est la fréquence, donc c'est avec un logiciel du GRM. Vous le voyez tous là, donc voilà, là c'est je m'amuse un peu dans les graves. Vous voyez la fréquence ici de coupure. Attendez, là je n'agis que sur les graves. Là on n'a plus que des aigus, au-dessus de 10 000. Là, on a une bande passante au-dessus de 4000. Et là, normalement, on a tout.
C'est un bonheur.
C'est plus parlant pour les aigus, j'ai supprimé uniquement les aigus.
Moi, la campagne, montagne, oui.
Non, moi, la
ou la mer, ou la montagne. La campagne.
Ça, c'est le résultat donc de la fréquence d'échantillonnage. Si on avait un échantillonnage à pas 44 000 Hz, mais à 5 000 Hz, on n'entendrait que à 2500 Hz, c'est-à-dire jusque-là.
Vivre dans la nature, vous en aurez 10 ans.
Là, on écoute le monde en dessous de 2500 Hz. Là, c'est la fréquence qui s'affiche. Donc, l'échantillonnage. Par exemple, là, si j'étais à 20 000 Hz, on entendrait jusqu'à 10 000.
C'est moi la campagne, montagne, oui.
Jusque là.
Non, moi la
campagne. Ou la mer, ou la montagne.
Là, le fragment est enregistré en 16 bits, 48 kHz. Plus que ça.
C'est pour ça que je vois le rouge.
Alors, l'autre élément variable dans un enregistrement numérique, c'est le nombre de bits. J'ai un logiciel de dégradation du son, de description passive, et donc je vais faire varier le nombre de bits de 24 bits jusqu'à 1. Donc je vous rappelle que pendant une période, on échantillonnait avec du matériel TCM Sony. 12 bits.
Il n'est pas là.
L'Empire des aigus.
Je sais que là, vous vivre dans la
13.
Dans la nature, vous en aurez 10 ans de
C'est autour de 10 litres qu'on commence à avoir une dégradation.
Oui, voilà.
Là, je remets le maximum. Et voilà maintenant l'effet de la dégradation de la fréquence des échantillonnages. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous faisais écouter avec un filtre. Là, on l'écoute maintenant en modifiant réellement la fréquence d'échantillonnage. Donc là, on n'a pas de bande passante supérieure à 8000 Hz, si on est à 16000. Là, par exemple, il n'y a rien au-dessus de 6000. Ici, rien au-dessus de 3000. Là, des éléments importants de...
C'est pour ça qu'on
fait le
moins
justement. Je ne sais pas si tu es. Est-ce qu'il est passé? Voilà. Vraiment aujourd'hui, le matériel d'enregistrement a fait des prouesses. Enfin, en tout cas, la technologie d'enregistrement numérique a permis que se développent des appareils pas très chers. Ils sont tous assez bons si on n'utilise pas les sorties, les entrées micro. Il n'y a que sur les bons appareils que les entrées micro sont de bonne qualité. Sinon, sur un appareil pas cher, si on utilise l'entrée ligne, l'entrée auxiliaire, l'entrée... instrument, si on a un système microphonique qui peut se caler sur cette entrée-là, on a d'excellents résultats. Le meilleur, l'engin critique étant vraiment le microphone. Ça ne sert à rien d'avoir un gros super Nagra numérique avec un petit micro à 1000 euros. Ce n'est pas la peine, c'est vraiment le micro qui fait la qualité de la chaîne d'enregistrement. Les enregistreurs sont assez bons. Alors, le numérique a l'avantage, bien sûr, de ne pas avoir de bruit de fond électronique, ou en tout cas, il est rejeté, il est extrêmement peu audible de par la dynamique. Les clonages sont parfaits ou quasi parfaits. Allez, on sait bien que les copies numériques sont parfaites. Mais alors là, on peut se dire, c'est bizarre, le stockage, c'est pas mieux qu'avec l'analogique. Ça risque même d'être pire, puisque si un fichier ne s'ouvre plus, parce qu'il a son... intro qui est abîmé, ou si le format a disparu, parce qu'il y a quand même eu des changements de format récemment, des normes, tout ça, on peut perdre son fichier. Je ne parle même pas des disques qui ne s'ouvrent plus du tout. Tout ça. Et puis il y a cette question, alors est-ce que l'enregistrement numérique est froid, là sont les détracteurs qui parlent de ça, ou bien est-ce que c'est au contraire une réplication parfaite du son réel? Les micros, enfin, je vous rappelle les trois grands genres qu'il y a. Alors, les marques, déjà, vous devez les connaître. C'est... Vous avez des micros de ces marques-là, non? Schoepps, Neumann, Soundfield, des choses comme ça? Vous les utilisez? Non? Neumann? Schoepps. Schoepps, ouais, d'accord. Il y a en fait trois grands genres de micros, de principes de microphonie. Le plus facile, sans doute, à créer, c'est le premier qui existait, c'est le micro de pression. En fait, un manomètre, une espèce de manomètre, qui va, c'est une matière élastique à l'origine, quoi, qui est tendue sur un cadre de tambour en quelque sorte. Et puis les sons font bouger cette membrane et on mesure ces variations électriques. Et c'est ce signal qui est envoyé à l'enregistreur. C'est le micro omnidirectionnel. Cette caractéristique de micro à membrane et celle d'un micro qui enregistre quasiment avec la même qualité, la même bande passante dans toutes les directions, dans une sphère. Si on tient ce micro en hauteur, il enregistre autour. Bien sûr qu'il y a une prédominance frontale quand même un peu, il y a un peu plus d'aigu dans l'axe, mais on ne ratera rien d'une scène si ce micro est placé au milieu de cette scène. Il y en a même une variante de ce micro de pression, c'est une version hémisphérique. Si on met la capsule de ce micro sur une surface, eh bien, ça va enregistrer tout ce qu'il y a là où c'est possible, pas dessous, mais au-dessus. Donc c'est une demi-sphère. dans certains cas, si on veut éliminer des sons extérieurs, ça peut être très intéressant. Ces micros qu'on appelle à zone de pression ou PZM, souvent c'est PZM. Les chefs en fabriquent aussi. Le deuxième grand genre de micro, c'est le micro à gradient de pression. Là, il y a un système de membranes, en fait, ce sont des composants électroniques, mais en gros, on mesure la différence de pression qu'il y a entre l'avant et l'arrière de la membrane. Ce micro, il est bidirectionnel, c'est-à-dire que si on le place entre deux personnes, on va pouvoir enregistrer une conversation avec un seul micro. On aura des caractéristiques parfaites des deux côtés, mais sur le côté, rien. Et en fait, le micro qu'on utilise le plus, c'est le micro directionnel, ou super directionnel, infra directionnel, ou cardioïde. C'est une combinaison. Bon, après, on a trouvé des trucs pour faire ça autrement, mais en gros, c'est la combinaison du premier micro dont je vous parlais, le micro manomètre omnidirectionnel, et de la moitié d'un micro bidirectionnel. Et du coup, on a un micro qui a tendance à enregistrer vers l'avant. Et selon sa conception, il va enregistrer vraiment dans un angle assez réduit, même si on n'est pas dans le monde du zoom, hein, c'est pas de la photo, c'est pas possible. On ne peut pas éliminer complètement les sons périphériques. Et même un gros défaut de ces micros-là, c'est que à l'arrière, on va dire aux deux tiers arrière, de chaque côté, on a des remontées de capacité de ces micros-là. Donc il faut faire très attention lorsqu'on les place. Il faut que ce soit orienté vers le signal utile, mais il faut également faire attention qu'il n'y ait pas un signal gênant aux deux tiers arrière de chaque côté. Donc c'est à maîtriser. Et pour l'instant, donc, au niveau des câblages, là, en ce moment, on commence à avoir des micros USB ou SMPTE, mais il y a quand même des développements en cours. Pour l'instant, donc, on est toujours à un système de captation analogique, quoi. C'est toujours une membrane et tout ça. Et à un moment, on avait parlé de gaz qui permettait de capter le son, donc on aurait pu avoir un système autre que membrane, électricité. C'était le plasma, on avait parlé de ça dans les années 80. Maintenant, c'est la fibre optique ou des technologies laser qui sont encore en développement pour des captations sonores. Mais il n'y a pas encore de micro haut de gamme de technologie optique ou laser. Voilà. Là, je pense que les personnes qui vont faire des ateliers de terrain, on va utiliser du matériel stéréophonique pour pouvoir avoir de la largeur, de la distinctibilité entre les plans, de la clarté dans l'écoute. Il n'y a rien à faire, un document monophonique est confus, beaucoup plus confus qu'un document stéréophonique où on peut, dans une assemblée par exemple, entendre d'où viennent les voix quand on ferme les yeux. Là, donc on a tout intérêt à travailler en stéréo. Et là, je rappelais qu'il y avait plusieurs catégories de matériel. Alors là, ça me fait bien rire, il y a le fameux couple RTF de Scheps, là, qui coûte 3000 euros, et on vient de voir sortir sa version piratée chinoise. La marque s'appelle Superlux, ça coûte 120 euros. On peut en acheter un paquet. Sinon, on peut toujours utiliser une barrette, deux suspensions et des micros, si possible, appairés. On peut, lorsqu'on achète des micros, demander à ce qu'ils soient d'une même gamme, fabriqués le même jour, éventuellement qu'ils soient de numéros qui se suivent, et pour qu'ils aient le plus de chances possible d'avoir des caractéristiques dynamiques, bande passante, pôle de directivité identiques ou proches. Quand on a des micros qui sont sur une barrette et espacés, un peu ou beaucoup, on parle d'un système AB. Les micros sont indépendants, en fait, hein, et donnent des décalages temporels énormes. C'est ce qui fait cette sensation de stéréo qui est belle. Voilà, ça fait des... Le défaut de ce genre de stéréo, c'est qu'il peut manquer un signal central. C'est pas forcément le mieux pour faire du reportage où on cible par exemple une personne, où on interviewe une personne. On s'en sort, mais c'est pas l'idéal. Les systèmes qui sont plus adaptés à un travail radio ou captation cinéma, c'est le système où les capsules de micro, les deux capsules, sont superposées, identiques et superposées. C'est les systèmes XY. Donc on a vraiment les deux membranes qui sont superposées, qui se croisent, ou à 90 degrés, ou à d'autres angles. Et donc il y a très très peu d'écart entre les micros. Et on est certain de la compatibilité à ce moment-là avec la monophonie. C'est encore intéressant, même s'il y a de moins en moins de machines mono, mais il faut y penser. Et le troisième système, où les capsules sont proches l'une de l'autre, mais là, ce sont deux capsules différentes. C'est une capsule directionnelle, cardioïde, infra, hyper, tout ce que vous voulez, mais l'autre capsule qui est placée dessous, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que là, on a en fait d'un côté un son frontal, de l'autre côté deux sons latéraux, et le matrissage électronique de ces deux micros, avec un réglage progressif, va permettre de passer de la mono à une mono qui rencontre des deux côtés, mais en fait en mono. On arrive à des stéréos qui sont très très belles, même s'il y a moins de volume que dans les stéréos de couple RTF de type XY. Et puis il y a maintenant donc des micros, là on sort un tout petit peu de nos préoccupations puisque c'est pour le multicanal. Même si ces micros, on peut les utiliser en stéréo, hein, c'est pas un problème. Ce sont vous voyez les micros qui sont en bas, là, le Tetramic à gauche et le Soundfield à droite. Ce sont des micros qui contiennent 4 capsules, donc il y a 4 câbles qui en sortent. Ça occupe 4 canaux d'un enregistreur. Et les capsules sont placées de manière dans un tétraèdre. Enfin, elles sont au bord, les membranes sont au bord d'une forme tétraédrique. Donc il y a des capsules qui vont vers le haut, d'autres vers le bas, d'autres vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, si on gère ces 4 signaux avec un dématriceur, on peut obtenir des résultats acoustiques comme ceux d'un micro mono ou d'une dizaine de micros. Donc on peut absolument être raccord avec tous les standards de la musique, du cinéma, de la radio. Et en plus, si l'installation d'écoute le permet, ce signal capté, qui s'appelle le format B, mais contient des données de la verticalité. C'est-à-dire qu'on peut, si on place des... Si on enregistrait une séquence de place avec une cloche, s'il y a un haut-parleur en haut, des haut-parleurs sur le côté, placé de la même manière en fait, hein, il faut que ce soit placé aussi en tétraèdre, il y a des sons qui viendront d'en haut. Voilà. Donc ça, dans une idée de vouloir restituer le plus fidèlement des espaces avec cette troisième dimension, c'est ce type de matériel vers lequel il faut aller. Alors c'est plus lourd à gérer, voilà. Ça consomme plus d'électricité. Le micro tétramique, on l'a au Cresson, c'est pas lourd, hein, mais les câbles, voilà, il y a toujours des problèmes qui viennent de ce matériel. On va passer sur les micros, les techniques de micro, hein, mais en général, les meilleurs, ce sont les micros électrostatiques, c'est-à-dire qui nécessitent une alimentation externe, qui est fourni par une alimentation, par un bloc secteur en quelque sorte, qui est intercalé entre le micro et l'enregistreur, ou bien c'est l'enregistreur lui-même qui fournit ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Vous voyez parfois plus 24 volts, plus 48 volts, non, c'est souvent 12 volts. Les demandes des micros ont baissé. Et tous les très bons micros sont électrostatiques. Mais il y a des gros problèmes, c'est que si on est dehors, qu'il pleut, que le micro est resté pendant une nuit où il a plu, on a des fréquences parasites qui durent au moment où on a besoin du micro. Et il faut attendre parfois des heures pour retrouver le silence du micro. Il faut le sécher, il faut le mettre au chaud, des choses comme ça. Et par rapport au vent, ce sont des micros qui sont très larges bandes, qui descendent très bas, en dessous de 20 Hz parfois. Et en dessous de 20 Hz, on est quasiment dans les fréquences du vent, le souffle, hein, un claquement de porte. En intérieur, on est obligé de mettre des bonnettes parce que une porte qui claque, ça fait un courant d'air qui est détecté par la capsule. Gros défaut, voilà, mais tellement de qualité. Ils sont des micros qui sont également fragiles par rapport à des micros dynamiques qui, eux, peuvent servir de marteau. Je connais des gens qui avaient utilisé un M88 comme marteau. Hein. Alors voilà, par rapport à ces rêveries des années 70-80 devenues réalité, avec le numérique, donc ce que je vous disais au tout début, on peut maintenant dissocier, on est d'accord, la fréquence d'un son et la durée d'un son. Quand on avait le Revox, on avait la bande magnétique qui tournait à une certaine vitesse, si on ralentissait cette vitesse, qui faisait un gros pleurage, le son devenait plus grave, et bien sûr la durée du son était plus longue. Bon, maintenant, on a des outils qui permettent de travailler uniquement sur la hauteur du son, on peut transposer, ou uniquement sur le temps, c'est-à-dire on peut ralentir ou accélérer de X fois, parfois il y a des slowdowners, enfin des ralentisseurs, on peut aller à 10 fois plus lent et tout ça, avec des artefacts. En tout cas, il y a des petits bruits parasites, c'est pas très beau, mais on peut le faire. On peut supprimer en série des défauts. Avant, quand il y avait un craquement sur une bande, il fallait couper au ciseau, le clac, le cric. Voilà. Maintenant, il y a des logiciels auxquels on apprend un défaut technique et ils enlèvent tout. C'est comme ça qu'on restaure des vieux disques, des vieilles bandes. Voilà. Mais là, pour des signaux ponctuels, multiples. Sur un disque rayé, il peut y avoir des dizaines de milliers de sons indésirables. On lisse avec ce logiciel-là. C'est quasiment inaudible. Vraiment, s'il y a un logiciel presque parfait, c'est celui-là. Par contre, lorsqu'on veut supprimer des bruits de fond, ça peut se faire, on le fait, ça marche assez bien. On apprend au logiciel en lui faisant analyser une zone justement de ce silence dont on ne veut pas, un silence bruyant. Après, le logiciel remplace ces fréquences gênantes par interpolation et il y a un petit peu d'artefacts. Plus on demande d'efficacité par rapport au souffle, plus là, les artefacts sont flagrants et on arrive à des aberrations. C'est-à-dire que si on pousse ce réglage à fond pour un enregistrement de voix dans la rue, on enlève les camions, on enlève toute la rumeur urbaine, et on a l'impression qu'on est dans une salle de bain. Quoi. Enfin, c'est ça à la fin. Donc c'est pas forcément ce qu'on voulait. Il y a aussi ces logiciels qui permettent de discriminer, de séparer le signal central et le signal latéral. Alors souvent, lorsqu'on enregistre une chanson et de la musique, la voix est au milieu et la musique sur le côté. Il y a encore des réglages tels que ça se fait comme ça. Donc ces logiciels arrivent à bien répartir. On peut se retrouver avec une voix seule, ou au contraire, on enlève la voix et ça fait les fameux effets karaoké. Ça sont des... Bon, le Vocaline, tout le monde a entendu parler, hein, ce réaccordeur de voix, hein, la chanteuse qui chante faux, vraiment tout le temps, elle est mauvaise, on peut vraiment la faire chanter juste. Quoi. Ça va être long de réparer, mais on peut vraiment le faire et ça sera inaudible. Enfin, là, on connaît le Vocaline plutôt pour ses détournements. En fait, ce qui intéresse, c'est justement le moment de bascule, le moment où le logiciel prend la correction en charge. Hein, et c'est devenu un truc de musique, R&B surtout, hein, y a ça. Mais normalement, ça ne transparaît pas.
Alors, c'est pas
d'autotune, on parle. Autotune, mais Vocaline aussi, pardon.
Et Vocaline, c'est pour l'alignement.
Alors c'est autotune, pardon, autant pour moi. Et alors, ce qui est nouveau, c'est ça c'était un grand fantasme aussi, c'est comment, dans la masse orchestrale enregistrée, un instrument joue faux. Un seul instrument a joué faux. On peut, dans la masse polyphonique, reprendre une note ou plusieurs notes, de façon absolument insensible, sans douleur. Quoi. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle Melodyne Editor. Il y en a d'autres qui sortent en ce moment, dans le même genre. Ça semble... c'est assez magique. La réponse impulsionnelle, dont je vous parlais tout à l'heure, donc maintenant, on peut créer des réverbérations... adapté, correspondant à un lieu précis et non pas à partir de paramètres qui permettent de se rapprocher de ce qu'on a entendu sur place. Quelque chose qu'on arrivait à faire mais mal avant, c'était la déréverbération. On disait toujours que lorsqu'on avait un son entaché de trop de réverbération, c'était foutu. Alors qu'avec un son mat, ça s'enregistrait à des conditions de chambre sourde, on peut toujours le placer n'importe où. On peut toujours y mettre une réverbération analogique, numérique ou à convolution. Mais là maintenant, alors il y a eu une intermédiaire, c'était on utilisait un exporteur de dynamique qui intervenait à la fin du son utile et il s'atténuait assez rapidement la réverbération. Mais maintenant, on a des logiciels qui font ça. Donc ce sont des expanseurs dynamiques qui font disparaître ce son. Mais en plus, il y a un apprentissage avec ces fonctions dont je vous parlais tout à l'heure, ces réducteurs de souffle, c'est-à-dire que le logiciel sait qu'il faut qu'il s'attaque aux décroissances qui ont un rapport avec ce qui précède, ces décroissances. Et ça donne des résultats absolument incroyables. Il y a un logiciel qui vient de sortir qui s'appelle Unveil, donc dévoilement. C'est vraiment ça que ça fait, quoi. Avec des paramètres assez incroyables. C'est le logiciel qui est en haut à gauche. Je sais pas si on peut l'agrandir un peu. Il faut que je sorte de ce mode-là. Avec localisation, réfraction, adaptation, présence. Je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser, il marche pendant une semaine, vous l'avez en essai. Vous l'avez essayé, vous l'avez testé, non? C'est quelque chose d'assez étonnant. Ça a commencé il y a longtemps, mais maintenant, tous les jours quasiment, se sortent des modélisations d'outils ou d'instruments d'outils musicaux ou d'instruments analogiques, des micros, des synthétiseurs vintage, des amplis, d'instruments, de guitare notamment, des matériels de studio, des tranches de consoles anciennes, de matériel qui ont, voilà, de consoles qui ont 50 ou 100 ans, quoi, ou 70 ans. Et plus fin, là, c'est maintenant la modélisation des caractéristiques d'un mixage vers un autre. C'est-à-dire si, même dans le commerce, il y a un disque ou un enregistrement quelconque, une émission de radio, dont les données de mixage, la dynamique, la bande passante, le rapport entre les plans vous satisfont, vous pouvez cloner en fait ce qu'on appelle la masterisation qui a été faite par un monsieur. C'est la dernière opération quand on fait un mixage, c'est la masterisation. C'est la mise aux normes, la mise à la mode un petit peu aussi du document sonore. Et ça peut être fait par des logiciels comme le Qclone, des choses comme ça. Donc c'est carrément de la captation d'un métier très, très haut de gamme. Et ça permet donc maintenant, comme il y a des logiciels qui permettent de faire des mixages plus ou moins automatisés, c'était un logiciel de la suite Final Cut Pro qui permettait ça. Voilà, a priori on peut faire des très bons mixages à partir des données d'un autre mixage. Alors ce que je n'ai pas montré, le logiciel en bas à gauche, c'est ce logiciel Center qui permet de doser justement quand c'est possible le signal central, souvent une voix ou un instrument leader, et le reste, l'orchestre, le fond. En haut à droite, c'est un logiciel de réduction de souffle, de bruit, de waves. Et en dessous, à droite, c'est le fameux logiciel Melodyne Editor qui permet de, après une numérisation d'un document quelconque, d'en tirer une véritable partition, mais beaucoup plus sophistiquée qu'une partition MIDI. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des nuances d'intensité, il y a des indications concernant les formants des sons. Tous les instruments sont, les instruments ou les sources sonores sont discriminées les unes par rapport aux autres. C'est tout sauf confus. Ça, c'est un logiciel vraiment incroyable, Melodyne Editor. Et voilà donc une fenêtre d'un logiciel vintage. Là, je crois que c'est de guitare électrique. Avec des réglages à l'ancienne. Voilà, pour vous guider aussi un petit peu dans vos travaux de montage, de mixage, Je vais vous rappeler là qu'il y a plusieurs familles de plugins qu'on peut utiliser avec la plupart des logiciels de montage. Vous les connaissez, enfin, c'est les plus grands, c'est VST, plutôt pour Windows, mais ça marche aussi sur Mac. C'est propre à Steinberg, c'est-à-dire c'est Cubase aussi, hein, qui est un logiciel qui est plutôt PC que Mac. Après, il y a les trois qui viennent, là, c'est AudioSuite, Real-Time AudioSuite et Avid Audio Extension, qui vient de sortir là, il y a un an. Tout ça, c'est propre au monde du Pro Tools. À Avid aussi, donc, qui est le propriétaire maintenant Pro Tools. Et ça va sur Mac et sur PC. Audio Units, ça c'est vraiment propre à Apple. C'est pour par exemple GarageBand, des choses comme ça, ou Logic Pro. Et même maintenant, c'est Adobe qui l'a pris aussi, si je me trompe pas. Non, c'est pas Adobe qui prend. Si je sais pas si. Je suis même pas sûr. Non, je crois que c'est VST. Audition, c'est VST. Il est accepté. Voilà, en tout cas, quand on a un logiciel qu'on aime bien chez VST, on peut le transformer en RTAS. A priori, c'est pas un problème avec des petits logiciels qui font ça très bien. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel en général, là, de montage, de mixage ? Ce sont des petits logiciels ou des Pro Tools, d'accord ? D'accord. Ardour ? Ah, ben, c'est la première fois que c'est bien. Qu'est-ce que ça donne alors, Ardour ? Donc ça fonctionne, ça met un certain temps à démarrer, quoi, comme ça bug de temps en temps. Si on paye au moins 1€, on a droit justement au plugin Audio Unit, ils sont compatibles, sinon il n'y a pas droit. C'est gratuit, mais donc il y a intérêt à payer 1€. Mais donc Ardour est à suivre, ça existe depuis plus d'une dizaine, enfin plus de 6 ans maintenant, 7 ans, et c'est très proche de Pro Tools. On n'est pas dépaysé quand on se retrouve dedans. Et il faut encourager les gens, parce que Pro Tools, ça commence à devenir très cher. Le 10, là, est devenu un peu inabordable, et puis il n'y a pas des plugins. Audacity, ça bug. C'est gratuit, mais ça bug. Hein. Je suis désolé. Logic, c'est vraiment bien. C'est pas cher. C'est tout, en plus, pour les étudiants, tout ça, c'est resté autour de 50€, là, 50 ou 60€. Ça contient plein d'instruments de musique, plein de logiciels, plein de plugins, plein de réverbérations numériques, plein d'instruments de modélisation à partir d'une corde, enfin des choses bizarres. Voilà. Cuba, c'est un grand classique, mais quand même un peu plus spartiate d'accès, quoi. C'est pas très agréable. Enfin, le plus agréable est sans doute Pro Tools en ce moment.
Live aussi.
Live, voilà. Alors, mais live a une orientation particulière, c'est le live. Et c'est ça qui est extraordinaire, par exemple pour le théâtre, quand on utilise Pro Tools, on ne peut pas utiliser Pro Tools où on est mal, parce que chaque fois qu'on écoute un son et qu'on veut en lancer en même temps un autre, et ben, ça pose problème, ça ne va pas. S'il faut faire envoyer en temps réel, à un moment donné, hein, quand il y a un comédien fait un geste et tout ça. Alors qu'avec live, on peut faire défiler plusieurs sons et en rajouter en cours de route, faire glisser des sons, c'est ça qui est assez merveilleux. C'est très bien aussi. Et ça dialogue très bien avec Max, avec tout le matériel de l'IRCA. Il y avait Pyramid, qui était un logiciel un peu lourd dans le monde du PC, et qui servait surtout à faire des SACD, des super audio CD. Donc c'est des CD haut de gamme dont on a arrêté la production parce que le code est craqué, comme le DVD audio, donc Pyramid en perte de vitesse. C'est la guerre, là, vraiment, au craquage des formats que l'industrie, que les majors essayent de réinventer pour se protéger, voilà, contre le piratage. Voilà, Audition ne doit pas être bien cher, c'est pas mal du tout, Audition, vraiment. Et SoundBoost, j'ai juste vu qu'il n'y avait pas de plugin en temps réel. Il faut faire des previews, voilà. Alors que les autres logiciels dont on a parlé, Pro Tools, Logic, tout ça, ou même Ardour, on peut insérer un plugin et entendre l'effet immédiatement. Voilà les principaux supports de stockage de documents sonores. Il faut toujours penser, lorsqu'on fait une prise de son, à sa destination. Et là, actuellement, il y a encore le CD, il y a encore le DVD. Je vous rappelle, c'est Digital Versatile Disc. DVD, c'est pas digital vidéo disque. Hein, on peut mettre du son très haut de gamme, très haute qualité sur un DVD. On peut faire un DVD multicanal avec du son numérique large bande, enfin non compressé. Même si après il y a eu le DVD audio qui est venu pour ça, pour prendre le relais, mais son code a été craqué. Donc ça permettait d'avoir de la stéréo à 24 bits, 192 kHz, ou bien 6 canaux 5.1 qui a eu tendance à devenir, ça a commencé à intéresser du monde. Et ça, on ne se trompe pas, c'est 24 bits, mais 96 ou 48 kHz. Mais quand même, c'est excellent. Hein. Comme le SACD aussi. Qui a disparu pour la même raison. Alors il y a le Blu-ray disc qui est versatile lui aussi, on peut mettre ce qu'on veut, on peut faire des Blu-ray comportant uniquement de l'audio avec des menus à base de photos ou de texte, hein, et avec des fichiers. Alors maintenant on peut aller jusqu'à 7 points, jusqu'à 8 pistes, dont un canal de grave, en qualité maximum, c'est-à-dire 24 bits, 192 kHz. Là on est dans la très haute qualité. Voilà, il reste les disques durs. Qui n'a pas perdu un disque dur dans sa vie, là, avec toutes les données qu'il y a dessus. J'ai pas eu de misère récemment avec les solid state disques, là, les mémoires flash, les disques durs flash. Hein, voilà. Et hier, j'ai entendu qu'on va sortir une clé USB à 1 Tera dans quelques jours. Elle va coûter 15 000 euros, quelque chose comme ça, mais 1 Tera. Alors le DAT était quasiment disparu, mais en fait, semble-t-il, notamment dans le monde de l'archivage, ça revient bien, quoi, entre autres pour l'audio. Voilà. C'est pas fini. Je crois qu'on va relancer des productions de cassettes, ça avait été arrêté à un moment, mais ça va sans doute repartir. Alors je vous rappelle que vos appareils peuvent faire le bien et le mal, et notamment, ils peuvent quasiment tous... enregistrer du MP3 ou du RAW, c'est-à-dire du WAV, du BWF ou de l'AIF, c'est-à-dire l'intégralité du découpage numérique. Et il faut choisir, et il n'y a pas le choix. Il ne faut pas utiliser le MP3 qui détruit de 1/3 à 9/10 de la masse sonore parce que l'algorithme estime que lorsqu'on entend une percussion dans un enregistrement, l'oreille elle est comme fatiguée, masquée, brouillée. C'est pas la peine d'avoir de la définition derrière. Voilà, c'est le principal point sur lequel intervient l'algorithme de compression. Il y a donc des manques de définition. Et puis, comme en photo, tout ce qui est au second plan, on va moins bien le soigner. Voilà, enfin, les bruits de fond, les résonances, les fins de réverbération sont souvent abîmées. Donc vraiment, si vous devez utiliser du MP3, c'est parce que c'est un enregistrement que vous faites qui est uniquement utilitaire. C'est de la voix, par exemple, une interview, mais pas pour du paysage sonore, pas pour de la musique. Vraiment, ou alors vraiment vous mettez les meilleurs paramètres, c'est 320 kilobits par seconde. Vous pouvez mettre 24 bits, c'est possible. Et puis il vaut mieux éviter le VBR, le variable bit, vaut mieux le taux fixe de découpage. Voilà. Sinon le MP4 c'est mieux, mais c'est encore pire. Enfin, semble-t-il, pour le grand public c'est encore mieux. Le son est plus précis, la dynamique elle était toujours très élevée. Mais il y a encore moins de données. C'est ça, on a réussi à enlever encore un peu plus d'informations. Et ça fait peur. Jusqu'où. Par contre, AAC, c'est un format qu'on trouve par exemple sur l'iTunes Store. En fait, c'est un conteneur. Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs fichiers à l'intérieur, dont des fichiers FLAC ou bien des fichiers. WAV, ou... enfin, je vous rappelle les documents qu'on enregistre normalement sur Pro Tools et tout ça, au maximum des performances de ces logiciels, ce sont des fichiers PCM, donc hein, c'est la numérisation comme on l'a inventé il y a une trentaine d'années, et ça donne des fichiers WAV, hein, C'est plutôt Windows, le monde Windows qui avait inventé ça, mais il est tout à fait compatible avec le monde Mac. BWM, c'est une version web plutôt adaptée au monde de la radio, l'audiovisuel, la télé, le cinéma. C'est Broadcast Web Format. AIF, par contre, ça vient du monde du Mac. C'était vraiment, notamment Pro Tools qui avait lancé ça. Non, pas seulement. C'était plutôt le Sound Designer. Là, c'est un format qui a quasiment disparu. Mais AIF, c'est bien adapté au Mac. Et donc, c'est Audio Interchange Format, quelque chose comme ça. Et j'ai mis RAW pour que ça vous fasse penser à l'équivalent en imagerie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme format? Donc, AAC à suivre. Hein, c'est un conteneur comme le MKV pour la vidéo. C'est-à-dire il peut y avoir à peu près tout du bon et du moins bon à l'intérieur. Hug Vorbis, bon, c'est par exemple ce qu'il y a sur Google. Quand on clique sur un fichier sonore, en général, il faut avoir le décodeur Hug Vorbis, qui est un MP3 un petit peu meilleur, mais. Bon, MP3, c'est quand même lancé dans le surround aussi. Hein. Il est en train de mettre au point un MP3 HD qui sera non destructif, comme la colonne d'à côté. Hein. Donc ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. L'idée, c'est toujours quand même réduire au maximum la taille des fichiers, par la destruction, les gens sont de plus en plus réticents, ou bien de façon non destructive, et on arrive maintenant à faire des... comme avec les fichiers zip, tout ça, pour nos fichiers, nos documents papier, tout ça. Là il y a des compressions non destructives, comme FLAC, le plus connu, je crois, c'est compression, la plus connue, qui a son équivalent chez Apple, c'est le Apple Lossless Encoder. Voilà. Et pareil, pour le multicanal, on peut avoir des formats destructifs comme DTS-CD, ou bien maintenant des formats... très performant, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce que vous avez dans les salles de cinéma maintenant, c'est le DTS HD Master Audio Suite, ou bien du Dolby True HD, où vous avez jusqu'à 11 pistes, 192 kHz, 24 bits. Donc je vais juste là vous faire... vous parler un tout petit peu de la réponse impulsionnelle, et j'aimerais bien qu'avec les gens des groupes qui vont faire du terrain, qui vont produire un document pour samedi, qu'on fasse des réponses impulsionnelles sur les deux terrains que nous avons retenus, dont vous parlez Noah tout à l'heure. Voilà, il y a un petit protocole à suivre, et on a obtenu l'autorisation en fait en proposant aux personnes qui nous reçoivent, en fait c'est un centre commercial et le directeur d'un musée, d'offrir en fait les réponses impulsionnelles. C'est-à-dire on leur donne un document qui rend compte de l'acoustique de salles, de plusieurs salles. Avec là on va le faire avec Logic. Voilà, et avec Engineelec amplifié et des micros qu'on déplace. Il faut faire plusieurs. Lequel? D'accord. Alors on a des très bons micros aussi, dès qu'on va faire en multicanal. Ouais. Donc, là, je vais lire là ce que j'avais indiqué. Il y a une manière d'éveiller un espace, de rendre compte, de faire sonner. Hein, il faut qu'on ait un son connu, hein, calibré. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en général un son transitoire, c'est-à-dire un claque, hein, qui contient normalement toutes les fréquences, mais ce n'est pas le cas en général. Si on fait deux claques à la suite, ça ne va pas faire le même son. Maintenant, on utilise plutôt un balayage fréquentiel que je vais vous faire écouter, un sweep de l'infragrave aux ultrasons. Et il faut que ce son soit puissant pour couvrir l'ambiance locale. Alors, dans le musée, dans la chapelle du musée, on n'aura pas de problème. Dans le centre commercial, je ne suis pas sûr qu'il y ait 60 décibels libres. Ensuite, le fichier qu'on a enregistré, à une certaine distance du haut-parleur qui a diffusé ce son connu calibré, ce fichier contient des informations sur les caractères acoustiques de l'espace, donc les réverbérations. En fait, c'est un fichier qu'il faut fabriquer, hein, puisqu'on va partir de ce fameux sweep, cette transition du grave à l'aigu, on va la compacter pour que ça fasse un son transitoire. Ça fait un fichier sonore qui est en fait un clap avec une petite réverbération derrière, une réverbération unique. ni commande. Donc on a enregistré la réverbération de ce lieu et les premières réflexions, c'est-à-dire c'est des balcons, c'est des arcades, des choses comme des aberrations dans l'espace, tout ça est stocké dans cet enregistrement. Et donc après ce fichier qui est ramené donc à une petite impulsion, il est reconnu par des réverbérations à convolution, il n'y en a pas 50, ça vient de plus en plus, on l'importe. Et à ce moment-là, donc, au lieu d'avoir des paramètres avec lesquels on cherche un effet particulier, là, on a une marque qui correspond à l'espace dans lequel on était. On peut encore jouer avec, on peut se déplacer, mais on a une base de référence qui est normalement assez objective si la prise de son a été faite dans de bonnes conditions. Alors donc maintenant, il y a des réponses impulsionnelles d'espaces remarquables qui sont recensées dans le monde, dans des bases de données, elles sont où des facs, des labos d'acoustique, ou la BBC, je crois, a essayé de commercialiser des bandes comme ça, ou parfois sont des associations, des amateurs qui, voilà, comme on allait autrefois enregistrer la locomotive, là maintenant on va enregistrer des collections d'églises, de chapelles, de châteaux, de couloirs, de forêts, puisque les enregistrements, ces réponses impulsionnelles, elles sont aussi faites dans des lieux extérieurs, des vallées, le Grand Canyon. Et je vous disais aussi, c'est dans les studios d'enregistrement aussi, et dans le mixage cinéma, qu'on peut utiliser ces réponses impulsionnelles. Je vais vous faire écouter Alors d'abord un sweep. Et après j'ai presque fini. Voilà. Ça c'est une réponse impulsionnelle très bas de gamme, enregistrée avec le micro intégré du Mac et avec un sweep, avec un balayage fréquentiel généré par un haut-parleur, c'est mono en fait. Et voilà, on voit bien qu'on a un son qui est quasiment sinusoïdal, il n'y a pas d'harmonique. Vous savez lire un petit peu un sonagramme, hein, verticalement c'est donc du grave à l'aigu, du bas en haut, de gauche à droite c'est le temps, et on a 10 secondes, en gros 11 secondes de temps. On voit que la fréquence démarre bien en dessous de 1400 Hz, on est en kilohertz. À gauche, on doit être, normalement ça devrait démarrer à 20 Hz, mais je suis certain que mon micro n'enregistre pas ici à 20 Hz, donc c'est sans doute à partir de 100 Hz, on va dire 100 Hz, et ça monte, ça m'étonne aussi, hein, mais a priori à 24 000 Hz, c'est magique, parce que je ne pensais pas que les haut-parleurs généraient 24 000 Hz. Et je vous fais écouter ça. Voilà. Si on fait la somme échantillon par échantillon de tous ces moments, on va retrouver donc ce fameux son transitoire, hein, un son qui contient toutes les fréquences. Et on va voir notre. Voilà, donc c'est l'opération qui s'appelle deconvolve, qui permet d'obtenir la réponse impulsionnelle. Donc voilà après un logiciel de réponse impulsionnelle. En l'occurrence, ça c'est Altiverb de AudioEase, où vous avez donc des. Alors on va zoomer un peu, je crois que c'est assez intéressant. Donc des cathédrales, là, des églises, leur Chartres, on ne peut pas ne pas aller faire un tour à Chartres, donc on l'appelle. Et donc les personnes qui sont nommées quelque part, hein, sont des documents qui appartiennent à quelqu'un, ils ont travaillé plutôt en stéréo, avec des micros cardioïdes ou omnidirectionnels. Les haut-parleurs étaient tantôt à 11 mètres, tantôt à 19 mètres des micros. Hein, et a priori, voilà, l'enregistrement était fait en stéréo. À d'autres moments, c'était des microcardioïdes, mais toujours avec une grande distance. Alors, on voit après que je vais mettre les infos. Où est passé Chartres ? Normalement, il y a les photos qui vont avec. Voilà, là, une représentation possible de la réponse impulsionnelle. Voilà, ça c'est une réponse impulsionnelle. Hein, il y a un impact, c'est le coup de fusil ou le claquement, ou bien la recomposition de ce son transitoire avec le sweep, à partir du sweep. Mais là j'ai perdu. J'ai perdu. Voilà, il faut aller en dessous, il faut sortir. Voilà, là. Donc on a le petit rectangle au milieu du rectangle noir, c'est la zone dans laquelle ont été placés le micro et les haut-parleurs, ou le contraire. Et c'est agrandi à droite. On a les dimensions de l'église. Il y a un copyright. Voilà, c'est le fabricant lui-même du logiciel qui a mis le copyright sur cette cathédrale. Voilà, vous voyez plus loin. Alors, non, on va continuer un petit peu. Je vais vous faire écouter des sons qui sont là dans ce logiciel disponible pour tester. En fait. Alors, en l'occurrence, c'est une percussion. Là, on est donc. Je vérifie la position du haut-parleur. Les haut-parleurs ne sont pas au bon endroit. Là, par contre, le remplacement il est indiqué. Voilà. Normalement, si je clique sur cette présélection, je suis placé à 11 mètres des haut-parleurs. Le micro est placé à 11 mètres des haut-parleurs. Et si à la place du haut-parleur, on met une voix. Donc là c'est il n'y a aucun réglage que j'ai modifié, mais c'est possible. Donc là on a la réponse impulsionnelle brute, mais si je déplace maintenant mes haut-parleurs, eh ben, je vais avoir d'autres résultats. Là je les ai éloignés, donc le son direct. Là, par contre, je rapproche les haut-parleurs ici, et j'ai beaucoup plus de son direct par rapport au son réverbéré. Et il est possible aussi de trafiquer les réponses impulsionnelles. Donc, on est dans un univers là aussi très ludique, très, très artistique. Beaucoup de musiciens utilisent ça et c'est assez extraordinaire. Je vous rappelle juste que le son original, sec, sans reverb, c'est.
Ok. Okay,
j'enlève toute la reverb. Là, il n'y en a plus.
Left.
S'il y en a encore un peu. Voilà, ça c'est le son le plus brut possible. Et voilà le son avec tel qu'il a été mesuré et enregistré avec la construction. Voilà, et dernière chose, c'est juste pour que vous voyez, le fabricant Waves d'une réverbération à convolution qui s'appelle IR1 vend des disques complémentaires qui contiennent tous ces lieux qui ont été mis en boîte en réponse impulsionnelle, des funérariums, des. Palais des festivals, des centres de spectacles, théâtre de l'Ermitage, je ne sais pas si c'est pas à Saint-Pétersbourg, voilà. Le lac, je viens de voir quelque part, non, c'est une église, Manchester Apollo, le stade, je crois, une salle de Sainte-Cécile à Rome. Voilà, donc il commence à y avoir sans doute des milliers, peut-être des dizaines de milliers de réponses impulsionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on élève en position de lieu à héritage, dont l'héritage sonore est à garder? C'est à nous de voir, c'est à vous de voir. Et, en tout cas, on peut enregistrer les couloirs, c'est très intéressant. Et un couloir peut disparaître aussi. Une galerie marchande peut être éphémère. Juste une dernière petite chose, c'est pour peut-être que vous pourriez prendre des notes à partir de là. C'est pour les travaux qui vont venir. Hop, ici. Keynote. Et là. Hop. Donc, pour tous les groupes, je crois qu'il y a, enfin, il y a deux groupes et sans doute quatre sous-groupes. Hein. Attention aux piles en ce moment, il fait froid. Elles sont consommées beaucoup plus vite que l'été, hein, ou qu'en saison moyenne. On va dire qu'on fait tous les enregistrements en 24 bits, 48 kHz. C'est pas très difficile pour les enregistreurs qu'on a, ils savent le faire, les mémoires aussi, les flashs savent le faire. Et plutôt en WAV ou en BWF, plutôt qu'en AIF, même si c'est quasiment pareil, vraiment c'est la conversion, elle se fait en quelques secondes, mais autant travailler en WAV. Tout ça c'est réglable. Débrayer les réglages automatiques de niveau et les limiteurs, pour ne pas avoir les effets de pompage, même les limiteurs, ça ne marche pas bien, tout ça. Surtout ces appareils bas de gamme. Couper toutes les fréquences graves quand c'est possible, en dessous de 40 Hz, parce que ce n'est pas la peine d'avoir le camion qui envahit tout, ça gâche l'enregistrement. Et attention à la manière dont vous tenez les micros, vous devez avoir certains l'expérience, mais vaut mieux une perchette, vaut mieux une suspension, vaut mieux être sur un pied quand c'est possible. Si c'est à l'arrêt, c'est pas la peine de tenir le micro. Autant le poser sur une perche ou sur un pied. Et attention au vent, aujourd'hui il y en avait pas mal. Les meilleures bonnettes, les meilleures protections contre le vent, ce ne sont pas ce qu'on appelle les softies, ces espèces de petites boules qu'on met juste devant la membrane. Ce n'est pas les boules, genre boule chups, tout ça, même s'il y a des poils dessus, si elles sont a priori efficaces, tout ça, elles coupent beaucoup trop d'aigus. Le mieux sont les cages. Plus la bonnette est grande, et plus il y a de couches dans la bonnette, même si ce sont des tissus extrêmement légers, ça peut très bien marcher, mais ça peut devenir monumental aussi. C'est comme ça qu'on peut enregistrer du paysage de bonne qualité, même par grand vent. On n'est pas dans le cas du journaliste qui va enregistrer à tout prix, qui va interviewer quelqu'un, même dans la pire des conditions, dans l'orage, dans la manifestation, tout ça. Un paysage sonore, ça nécessite un minimum de contraintes, parce que si on met des bonnettes classiques, on coupe les aigus. Or, ça contient plein de choses, le paysage sonore. Et pareil pour les documents finaux, qu'on écoutera tous ensemble samedi matin, on reste sur cette idée de 24 bits, 48 kHz, pour le mixage final. C'est tout ? Voilà.